Hey, nasal trimmer, Duracell Bunny here. No offense, but you've probably got the worst job ever, and you're possibly the worst Christmas gift ever. But look, Sally is trying to drop her husband some not-so-subtle hints about his not-so-subtle nose hairs. Anyway, these Duracells will keep you powering on through miles of nasal passages. I'm so sorry. Pick up Duracell this season and power on.
Vous écoutez
RMC. RMC.
L'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
Avec, comme tous les vendredis, Ludovic Obraniak et Jonathan McCarthy. L'After est là, bien sûr, jusqu'à minuit. On est toujours sur le match Lille-Montpellier avant de parler de Lyon dans une petite demi-heure, bien sûr. On vous attend pour débattre du cas lyonnais, car les choses ont encore évolué aujourd'hui avec des déclarations de Rudy Garcia. On l'entendra tout à l'heure. Renato Sanchez, on va accueillir Guy au 32-16 qui veut en parler. Guy est supporter lillois. Salut Guy.
Oui, salut Gilbert.
Salut Guy. Salut Guy.
Bonjour Jonathan et un grand bonjour à Ludo.
Salut Guy.
Mais merci encore pour ton coup franc.
Avec plaisir.
Même si ton retour avec Bordeaux fait très mal.
T'inquiète pas qu'à Marseille aussi, on le remercie pour son coup franc.
Non, mais écoute, j'avais des comptes à rendre avec Rudy. Bon, ça va.
Oui, mais tu pouvais. À limite, voilà, tu pouvais.
Toi aussi, t'avais des comptes à régler avec lui.
Oui, mais ça s'est fait très vite. En fait, ça s'est réglé très vite.
Parce que t'as marqué.
J'ai mis un triplé.
Je suis parti de Lille et je crois que 3 semaines après ou 1 mois après, je suis revenu avec Bordeaux à Lille.
Nord.
Voilà, alors que j'aurais pas dû jouer ce match-là. Lille avait demandé à ce que je joue pas. Et Jean-Louis Trio m'avait forcé à jouer parce qu'il m'a dit t'es pas prêté, t'es acheté. Donc les accords.
Il avait raison, Trio.
Oui, il avait bien raison, bien sûr. Les accords, ça tient pas. Donc.
Et t'en as marqué quoi? Deux
ouais,
ou trois?
Ouais, j'en ai marqué deux, dont notamment le dernier à la 93e minute.
Et donc là, t'en voulais à Garcia, donc une fois que t'as marqué, qu'est-ce que
ouais,
t'as fait?
T'es
pas allé le chambrer quand même?
Ouais, j'en voulais vraiment,
allongé,
même pas.
Non, c'était
même
mignon.
Pas, j'ai même pas eu besoin de chambrer quand j'ai vu les vidéos après, où il était dans son banc, la tête dans les mains. Enfin voilà, c'était suffisant pour moi.
Elle est fouteux quand même.
Bah, tout à l'orgueil. Un peu d'égo.
C'est
mais bien
terrible.
Sûr. Mais tu sais quoi, Gilbert, j'aurais. Dans ma tête, c'était pour moi, j'aurais fait ma carrière à Lille. Je me sentais tellement bien dans ce club, j'aimais tellement ce club.
Quoi, c'est Garcia qui t'a foutu dehors?
Non, pas vraiment, mais ces décisions ont fait que j'ai été obligé de partir pour pouvoir continuer.
Mais Ludo, sur RMC, tu as dit que tu étais en conflit aussi avec Payet, quoi. Tu avais des relations qui n'étaient pas très.
Avec qui?
Avec Dimitri Payet.
Non, pas vraiment.
J'ai jamais dit ça.
Non, pas vraiment. J'ai pas dit ça. C'est-à-dire que Dimitri, en fait, on est arrivé, on était en concurrence les deux. Le problème qui s'est posé, c'est que Rudy m'avait dit que je serais en concurrence avec Dimitri. Et j'ai trouvé ça très sain parce que Dimitri, je savais que j'allais le bouffer. Je savais que j'allais le bouffer sur la durée. Mais en fait, ce qui est rentré en ligne de compte et ce qui a vraiment déterminé mon départ, c'est l'arrivée de Joe Cole. Il a fait signer Joe Cole le dernier jour du mercato, alors que vous le savez pas. Mais moi, je négociais avec à la base Jean Fernandez quand il arrivait à Auxerre et qu'il y avait ce Il avait récupéré ce groupe avec l'Ajax, le Real.
Ah oui, la Ligue des Champions.
Voilà, la Ligue des Champions.
Et
Jean Fernandez voulait me récupérer. Sauf que Lille m'a bloqué en me disant que j'allais être en concurrence avec Dimitri. Sauf que le dernier jour du mercato, Rudy a fait signer Joe Cole. Donc le deal était pas respecté. Et 6 mois après.
Bon alors Guy, soyons, comment dirais-je, direct. Si tu devais faire un choix entre, voilà, maintenant je reprends le grand Obraniak de la grande époque ou le grand Payet. Tu choisis qui? T'as choix entre un des deux, hein. Payet ou Obraniak, tu prends qui?
Si tu veux, le problème de Payet, tout le monde connaît, c'est son inconstance, quoi. C'est 3 mois ou 6 mois exceptionnels et pour disparaître après. Mais bon, moi je vais.
Donc tu prends qui?
Je prends Ludo parce que.
Ça va.
Je prends pas Ludo parce qu'il est là, hein.
Qui n'aurait pas choisi Ludo, je serais venu, je t'aurais mis une gifle, hein.
Non, mais je vais te dire, il a gagné la Coupe de France, il nous a fait coup franc. Donc, j'étais demandé des souvenirs avec mes enfants. Bah, c'est Ludo. Point barre.
Merci.
Hein.
Bon, merci.
Alors, le match ce soir, alors.
Maintenant que t'as bien ciré Ludo, parlons un peu de Renato Sanchez, si tu veux bien.
Écoute, on était peut-être un peu sceptiques pour beaucoup. 25 millions, Renato Sanchez. Bon, début de début de calendrier un peu discret parce qu'il est pratiquement pas joué. Puis là, le réveil et bah, moi, je paye pour voir des joueurs comme ça, quoi. Ce qu'il a fait à la fin, c'est le football tel que l'on aime, des manières de ballon, comme on n'en a pas beaucoup dans le championnat de France.
Il y a pas que ça. Bah,
sauf que le problème, c'est que c'est le seul vrai bon match qu'il a fait.
Non, c'est pas vrai.
Excusez-moi, donnez-moi les matchs. T'as vu le match de Lille.
Ça fait quatre matchs
qu'il est très.
Il monte en puissance, mais très bon.
Le dernier match de Renato Sanchez, tu l'as trouvé comment? Pas celui-ci, alors, le dernier.
Je vais pas dire extraordinaire, mais très beau, très bon.
Ouais, très bon. Ah,
et, 87% de passes réussies, 6 passes clés. Il était déjà en
puissance. Elle sort d'où tes stats là? Tu l'as déjà inventé?
Non.
Alors on vérifie. C'est l'UEFA qui nous a donné.
On vérifie.
Tu parles du match de Ligue des Champions qui servait à rien?
Non, le match d'avant Ligue 1.
D'accord.
On va vérifier.
Guy le sait, Guy est supporter assidu. Renato Sanchez depuis 4-5 matchs.
Ouais, bien sûr.
Je l'avais dit, j'avais une confiance vraiment. Je dirais pas totale, mais j'avais une vraie confiance en ce garçon. Il était clair qu'il avait des capacités. Qui avait été vu notamment au Bayern de Munich, mais encore avant. Mais il était clair qu'il allait, en enchaînant les matchs, il allait pouvoir récupérer une certaine constance, régularité. Mmh. Il avait vraiment besoin de ça, d'enchaîner les matchs, parce que, mine de rien, quand tu joues une fois sur deux, une fois sur trois, moi je l'ai connu, c'est très difficile de pouvoir être à son meilleur niveau. Là, il enchaîne. Voilà, ça fait quatre matchs qui nous montrent que c'est et encore c'est pas son poste côté droit, c'est même pas son poste, mais il a une telle capacité, le rapport poids puissance est exceptionnel.
Il marque à gauche en plus là, il est sur le côté gauche. Mais moi, ce que je trouve formidable, et c'est ce qu'on n'a pas beaucoup dans le championnat de France, c'est un perceur de ligne. Mmh. Il te traverse les lignes. C'est en ça. Première mi-temps, il l'a fait. C'est tellement agréable, des joueurs comme ça qui ne sont pas dans la latéralité, mais vraiment à jouer le 1 contre 1.
Ouais, il casse des lignes constamment.
Et ça, c'est
par la passe ou par la course.
Voilà, absolument. Ouais. Et moi, je paye pour voir des joueurs comme ça. Quoi. Ce qu'il a fait à la fin sur Souquet, c'est venir à manière de ballon comme ça. Ça se regarde, ça se déguste. On essaye de faire ça le dimanche, on est ridicule, mais voilà, c'est du plaisir, que du plaisir.
Alors, j'ai retrouvé les stats.
Dis, on est qu'aux prémices.
J'ai retrouvé les stats pour le match de Brest.
Attends, parce que là, Ludo, il est en train de dire que Renato Sanchez, c'est.
Je vous le dis, on est qu'aux prémices. Ce joueur va être le leader de cette équipe. Je l'ai vu.
Ah ouais, mais tu nous fais. Là, non, je t'en parle, on dirait que tu nous parles de la mec qui va être dans le top 10 mondial. Là.
Non. Peut-être pas, mais je pense que ça sera le leader de l'équipe
du LOSC. Je le vois parler aux joueurs, je le vois depuis.
Oui, tout à fait.
Je le vois depuis un certain temps. Notamment, à un moment donné, on l'a vu avec Osimhen.
Moi, je demande à voir quand même.
Avec Osimhen, qui est le meilleur buteur. Quand même. Et un peu de respect pour le meilleur buteur. Je l'ai vu lui parler. Notamment sur ce match de Ligue des Champions où Osimhen, il est à droite, il met des centres au cordeau, où Osimhen, trois fois, et pas à l'endroit où il doit être à ce niveau-là. Et lui, il vient, il lui parle, sans s'énerver, il lui explique, voilà, tu dois être, voilà, à ce niveau-là, tu dois être.
On parle de deux joueurs très jeunes, là.
Non, mais Gilbert,
à Lille, c'est pas, à Lille, on a des joueurs très jeunes, mais il faut des mecs comme ça qui,
c'est un leader technique.
Voilà, c'est un leader technique, mais t'as raison.
Non, mais au-delà d'un
leader technique. Passons au dossier suivant.
Juste, je te dis. Contre Brest, 77 ballons touchés, 85% de passes réussies, 6 passes clés. Il monte en puissance. Ça fait 2-3 matchs, on le voit.
Ça veut dire quoi, 6 passes clés?
C'est des passes qui créent des occasions de but.
Ah bon? C'est important. Mais ça me fait toujours rire, ce genre de truc. C'est comme le concept de passe décisive, ça n'a aucun sens. Mais bon.
Ces centres sont vraiment très intéressants.
Moi, je suis pas là forcément pour aller contre ce que vous dites sur Renato Sanchez. Je vois aussi qu'il fait quelques bons matchs. Mais enfin, moi, j'attends encore de voir sur la durée pour
qu'on est d'accord. Voilà. Ce qu'on dit, c'est que ça fait
3 matchs.
Si on disait Thomasson à Strasbourg.
Ah, touche pas à Thomasson.
Voilà. Touche pas à Thomasson.
Ça fait 3-4 matchs que Sanchez monte en puissance et qu'on voit qu'il prend de l'importance dans l'équipe. Là encore ce soir, mis à part le but qu'il met, on le sent très impliqué. On sent surtout qu'il a retrouvé un coffre physique qui est assez intéressant. Parce qu'auparavant, quand Galtier le mettait à droite, on sentait que son latéral droit était un petit peu dans la merde parce qu'il faisait pas les efforts. Là, on voit qu'il est capable de faire les efforts, de balayer tout son couloir. On sent qu'il reste lucide dans les zones de vérité. Et ce soir, il fait un très bon match. Alors, est-ce que c'est encore parfait? Non. Mais est-ce qu'il monte en puissance? Oui.
Merci Guy.
Merci à vous, monsieur.
Salut Guy.
Merci. Quand tu veux pour salut. Parler du LOSC, Ludovic Obraniak, que tu pourras comparer la prochaine fois, peut-être, je sais pas, à Azanovic, à qui d'autre
Asimovic.
Asimovic, pardon.
Asimovic.
Asimovic, pas Azanovic, t'as raison.
Avec plaisir. Bonne soirée, monsieur.
Salut. Bonne soirée, Guy.
À qui? À Jason Boutoil.
Je suis largement au-dessus, quand même.
Bon, parlons un peu de Montpellier, si vous le voulez bien. Baptiste est avec nous, supporter de la Paillade. Baptiste, bonsoir.
Bonsoir à vous. Bonsoir.
Salut Baptiste.
Salut Baptiste.
Bon, malgré la défaite, qu'est-ce que tu as pensé du match de ton équipe, là?
Alors, si je peux me permettre, avant de parler du MHSC et du match de ce soir et de la spirale un peu négative qu'on est en train de vivre actuellement, j'ai un petit coup de gueule à passer, qui n'est pas contre RMC, évidemment. C'est contre Monsieur Pierre Ménès, qui est imbuvable, qui a eu, à chaque fois que Renato Sanchez a touché le ballon, des petits cris juste insupportables, une espèce de non-objectivité comme il devrait en avoir. Et c'est souvent quand il commente les matchs contre Montpellier. Et ça commence à être vraiment
fatigant. Je trouve pas cette goutte, enfin, il n'est pas là pour répondre. Donc,
Je sais bien, mais c'est pas grave. Au moins, c'est dit, c'est entendu, peu importe. Ça me fait du bien, en tout cas, de le dire. Je vous remercie.
Bon, en tout cas, c'est pas le sujet, évidemment,
c'est,
du soir.
C'est une thérapie, quoi.
Mais c'est quand même insupportable.
Parle-nous de ton équipe, mon pote.
Voilà, sinon, si je peux parler de Montpellier deux minutes, évidemment, en ce moment, ça paye pas. On n'est pas forcément dans une bonne période, malgré les efforts, quand même, de l'ensemble de l'équipe, parce que ça se bat, ça court, il y a de l'envie. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas la réussite de l'année dernière.
Je me
rends compte quand même que Souquet, par rapport à Aguilar, on n'est pas sur le même registre, le même niveau, et forcément, les couloirs au Montpellier-Hérault avec Dermot Carin, ils ont un schéma.
Baptiste, t'imagines qu'Aguilar, il n'est même pas titulaire à Monaco.
Et je sais bien, mais bon, la saison qu'il a fait à Montpellier l'année dernière, c'est pas le Souquet qu'on a aujourd'hui.
C'est
les joueurs qui se battent et qui donnent tout ce qu'il a, et j'ai pas de problème avec ça. Mais n'empêche que ça reste léger, et offensivement, et surtout défensivement. Il manque un peu de lenteur, ça fait deux matchs qu'il y a. Alors c'est vrai qu'il a deux clients, hein, Renato Sanchez et Neymar, mais au-delà de ça, défensivement, c'est un peu plus poussif.
Moi, j'ai pas trouvé Montpellier horrible. Hein.
Non, en fait,
on fait un bon match encore, mais on manque de réussite, c'est vrai.
Franchement, je vais te dire. Montpellier, on l'a dit plusieurs fois avec Ludo dans le week-end, c'est que il faut absolument que Montpellier ait l'ambition de jouer le top 3 de Ligue 1. Après, le problème, c'est quand tu regardes la série.
Top
3, t'abuses.
Top 3, top 5.
Voilà.
Après, le problème, quand tu regardes la série des matchs, t'as joué contre Lille, t'as perdu. T'as joué contre le Paris Saint-Germain, tu as perdu. Tu fais un match nul contre Dijon, qui est pas non plus un foudre de guerre. Tu gagnes contre Amiens avec une grosse victoire, mais Amiens prend un carton rouge assez rapidement. Tu fais match nul contre Saint-Etienne. Le problème de Montpellier, et je pense qu'on verra le vrai Montpellier en janvier, c'est que cette équipe est destinée à jouer avec Ferry, Savanier au milieu de terrain. Pour l'instant, à part un match, tu n'as jamais été capable de les aligner ensemble. Savanier reprend son rythme. Il a été blessé longtemps.
Tu fais quoi de Mollet alors ?
Comment ?
Et tu fais quoi de Mollet dans
ton match ? Je le mets avec.
Tu mets les trois.
Je sors Chotard. Oui, je sors Chotard. Et Lotalek, il est pas mal derrière aussi, je trouve.
Je sais pas. Pedro Mendes ce soir, il nous a manqué, hein, parce que ça reste quand même aussi un vrai leader derrière. On a perdu le petit Koza qui était aussi en train de s'imposer et qui était assez intéressant. Mais au-delà de ça, peu importe les absents, il y a quand même mine de rien des joueurs assez intéressants.
Oui, mais par exemple Savanier, ça doit être ton maître à jouer. Il est pas encore en forme.
Et j'attends de voir un petit peu sur le long terme. Moi, je m'interroge. Ça fait 2-3 matchs que Mollet est mis de côté au détriment de Savanier et surtout du petit Chotard qui ma foi.
C'est Chotard surtout qui prend sa place.
À prendre sa place, peu importe. Mais moi, je déplore un peu le fait qu'on ait enlevé un petit peu les clés du milieu de terrain et de ce côté un petit peu leader technique qu'avait Mollet depuis 2 ans, notamment sur les coups de pied arrêtés.
Ouais, t'as raison là-dessus.
Il se retrouve à les tirer et moi, je trouve que Mollet les tire mieux. Notamment, surtout qu'il en a mis deux déjà, en hein, Coupe de la Ligue.
Après, ouais, mais. T'oublies une chose, c'est que dans le jeu, il a eu une période de 3-4 matchs où c'était quand même un petit peu compliqué. Il manquait de rythme.
Mollet.
Physiquement, il était un petit peu court. Oui, Mollet. Ouais, il était quand même physiquement un petit peu court. Après qu'il est sorti de l'équipe. Juste qu'il est sorti de l'équipe. Je comprends.
Je veux pas dire
mais maintenant,
mais
non, mais juste pour terminer, je pense qu'il doit revenir dans l'équipe à terme. Mais c'est normal qu'il le sorte un petit peu. Après, je pense que t'as un milieu de terrain, tu as des possibilités qui sont quand même assez importantes avec Ferry, avec Chotard, avec Mollet, avec Savanier. Mais ça va être à Derzakian de trouver la bonne formule parce que tu as l'effectif, et j'insiste là-dessus, tu as l'effectif pour jouer le top 5.
Non, mais c'est...
Pour l'instant, tu n'as pas réussi à concrétiser tous tes bons matchs avec des points, à l'instar du match contre le Paris Saint-Germain. Mais je pense que le vent va tourner parce que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance.
Il murmure que Montpellier veut recruter un attaquant au mercato d'hiver.
C'est obligé.
C'est pas une mauvaise idée parce que quand on lève Laborde et Delors,
tu joues à deux devant.
Le pauvre Skulečić, il arrive à rien.
C'est ça. Tu joues à deux devant et t'as deux attaquants.
Camara, il commence à avoir quand même 55 ans. Donc, j'exagère un peu.
En fait, t'as besoin d'un troisième attaquant.
Ça n'enlève rien aux qualités. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Montpellier depuis le début de saison. Autant au niveau du cœur que du courage, que de plein de choses. J'adore le dernier match qu'ils ont fait, notamment avec la spontanéité de Delors quand il frappe de 35 mètres. Voilà, c'est. Je regrette que Michel Desarcarian, à un moment donné, il a une triplette devant qui fonctionne très bien et qui fasse le choix de nouveau quand ça fonctionne un peu moins bien de dire voilà. Je retire Mollet et je remets plutôt le triangle pointe basse plutôt que le triangle pointe haute avec Mollet avec Laborde Delors. Et bizarrement, tu te dis quand les trois sont ensemble, ça fonctionne et quand même beaucoup mieux. Quand il y en a un qui est sur le banc.
Et l'année dernière,
je comprends pas pourquoi Mollet, qui est très bon au demeurant. Et qui il performe tout le temps. Je comprends pas pourquoi ce joueur est mis là en retrait. Alors
qu'il est capable de changer le cours d'un match.
Mais c'est ça. La triplette fonctionne très bien. Ton problème, c'est de dire voilà au milieu, en fonction, je fais jouer Mollet, je fais jouer les trois devant, et après comment je m'organise derrière. Je trouve décevant de Michel Desarcarian, notamment. Sur les statistiques que peuvent avoir cette triplette, tu regardes les trois, c'est-à-dire que dès que t'en retires un des trois, tu sens que c'est pas la même chose. Je regrette que Michel Desarcarian fait le choix de Chotard plutôt que le choix de Mollet.
Les gars, l'année dernière, quand on était tous enthousiastes sur Montpellier, il y avait pas ce choix-là. Hein. C'était Mollet qui faisait tous les matchs.
Mais on l'est toujours.
C'était Mollet.
On l'est toujours. On s'est enthousiasmé il y a pas si longtemps pour eux.
Donc je pense qu'il faut le laisser.
Baptiste, un truc à rajouter ?
Oui, je souhaite bonne chance au FC Occitan qui joue le titre à MPG. Allez mon Guigui, c'est ta saison.
À la bonne heure.
Très bien, salut Baptiste.
Ciao Baptiste.
Bonne soirée.
Bonne soirée mon pote.
Petite évaluation les gars, il y a deux trois joueurs qu'on n'a pas cités qui ont fait un bon match. Je pense par exemple à Ikoné ou Soumaré. Ouais.
Ah ouais. Benjamin André aussi.
Benjamin André. Ouais.
Toujours. Okay. Dans le placement, il est précieux. Passe.
Ouais, donc finalement, le seul problème un peu lillois ce soir, c'était la défense. Hein,
c'est pas la défense, c'est le système défensif.
Comme on le dit depuis un moment. C'est-à-dire qu'on a une base depuis le début de saison qui donne des garanties. Mais depuis peut-être un ou deux mois, ces garanties sont moins visibles.
C'est le système défensif.
Moi, Gabriel, il me donne moins de certitude. José Fonte, pareil. Diallo, une fois sur deux. Soumaoro,
Bradarich, il est bon
beaucoup blessé.
Mais...
Bradarich ou Reinildo, moi je préfère Bradarich parce qu'il est très intéressant offensivement. Mais Reinildo, okay, c'est gros volume de jeu, mais pour moi il est inintéressant dans le système offensif. Mais c'est vrai que Bradarich, offensivement dans les derniers mètres, il peut créer la dernière passe, mais défensivement il a toujours des lacunes. Donc, ce qui faisait la force du LOSC, c'est-à-dire d'avoir une base défensive plus que stable, quand même.
Bah oui.
Il faut le dire. Plus que stable. Bah, aujourd'hui, c'est moins le cas. Et c'est ce qui fait que.
Je vais ajouter une chose, Ludo. C'est que par rapport à l'année dernière, tu avais un milieu de terrain avec Sheka et Thiago Mendes. Peut-être un petit peu moins talentueux
année. Sheka, il est l'ombre de lui-même.
Ça, on est d'accord. Voilà. Mais l'année dernière, au moins, ce que Sheka et Thiago Mendes savaient, c'est qu'ils étaient ultra disciplinés.
Alors,
c'est que dans les phases de transition, ils étaient toujours en train de se replacer en l'archer central.
André,
là, cette année, André, c'est bien, mais il court un peu partout.
Ouais, mais André Soumaré, c'est exceptionnel. Au milieu.
Oui, mais c'est moins discipliné.
C'est bien meilleur que Sheka en ce moment.
Mais c'est moins discipliné tactiquement.
Je vais quand même vous faire remarquer qu'au classement, il y a un petit trou qui se fait. Alors, évidemment, les autres n'ont pas joué, mais enfin. En fonction de ce qui se passe ce week-end, Lille pourrait se retrouver avec un petit matelas sur le podium, hein, avec Marseille et Paris. Si Rennes et Bordeaux ne gagnent pas ce week-end, voire et Nantes non plus, enfin voilà, il y a un petit trou. 31 points pour les Lillois ce soir, 27 pour Rennes qui a un match en moins.
Enfin, Gilbert.
Rennes a deux matchs en moins d'ailleurs.
Enfin, il y a des équipes qui se détachent. C'était pas le cas depuis.
C'est le cas en bas du classement et en haut.
Tout est basculé. Tu perds deux matchs, tout bascule aussi.
Oui, mais enfin avant c'était plus serré quand même, mathématiquement parlant. Un petit tour sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. Sur le hashtag RMC Live, on me dit, c'est le côté obscur du foot qui lui dit, moi, mon regret, c'est qu'on n'ait pas vu jouer ensemble Roten et Aubragnac, qui nous auraient donc fait une Neymar Cavani sur tous les coups francs.
Sauf que Jérôme est bien meilleur.
Alors,
Jérôme est bien meilleur.
Jérôme aurait été très bon sur les pénaltys. Mais il n'y a pas photo sur les coups de pied arrêtés. Je suis bien au-dessus de Jérôme. vous pouvez regarder les coups francs que j'ai mis. Bon, sans problème, je suis au-dessus de Jérôme. Donc on aurait été très bien. Moi, dans le milieu à 3. Et Jérôme, plutôt excentré sur le côté gauche, ailier.
Seven me dit Furlan, mort de rire. Ce mec-là, tu lui donnais le genre du réel. Il descendrait en Ligue 2. Donc il n'y a pas que des fans de Furlan. Tu remarqueras.
Furlan, il n'a pas l'effectif. Il fait avec l'effectif de Francis Gillot et de Pablo Correa. Donc donnez à Jean-Marc Furlan l'effectif dont il a besoin et vous verrez que.
D'autres latéraux surtout.
Et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Jean-Marc Furlan, je vous le dis, j'ai joué à Auxerre. L'effectif actuel, il est quasi le même qu'il y a 2 ans. Ils ont quasiment rien recruté. C'est la même chose. Jean-Marc Furlan, il a besoin d'avoir 5-6 joueurs clés dans son équipe, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, il faudra attendre l'année prochaine parce que ça.
Et que Monsieur Zou mette des zous.
Monsieur Zou mette des zous, mais il les met déjà, honnêtement.
Nicolas Jamin va organiser un débat dans l'after, comme à l'image de ce qui se fait dans les primaires, avec Jean-Marc Furlan et Christian Gourcuff.
Ah bon?
Très bon.
Ça serait pas mal quand même.
Ça, c'est pas bête.
Ouais.
Ah, ça aurait de la gueule.
Très bon.
Oui, mais le problème, c'est que j'ai peur que finalement, ils se rejoignent. Tu vois, que ce soit tous les deux du même bord, en fait.
Bah, tu veux inviter qui? Tu veux t'es invité quand?
Ah non, à ce moment-là, il faut mettre, par exemple, Jean-Marc Furlan et René Girard.
Non, mais Daniel.
Avec... Tu veux deux écoles différentes.
Quelle horreur.
Tu vois, si tu veux deux écoles.
Mais Daniel avec nous, ça va aller. Hein.
Ou Daniel, ouais. Voilà. Et puis tiens, j'ai petit gars qui lui dit Black, maintenant Jonathan nous donne des leçons de musique. Aïe, 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 il prend trop la confiance, ce gamin.
Désolé d'avoir l'intégrale des Stones, désolé d'avoir l'intégrale de Led Zepp et de pas écouter vos merdes et que je savais même pas que c'était Jules. Je savais même pas qui était Jules jusqu'à il y a 2 semaines. Et maintenant je sais. Et je suis content de pas avoir savu ce que c'était.
Il y a Julien qui lui dit moi, c'est sur. C'est qui s'y dit, hein? Moi, c'est ma grand-mère qui a dans sa playlist les Rolling Stones.
Ta grand-mère a très bon goût, mon pote.
Gilbert, quand je pense que j'étais mangé chez Jonathan tout à l'heure, ouais. Il avait la playlist de Maître Gims. Eh ben, putain.
T'es sérieux?
Ah ouais.
On a écouté l'intégrale des Stones, arrête un peu.
Ça m'a fait du mal, hein, je te le dis.
Ah ouais. Vous étiez censé regarder la Ligue 2, non?
Non, on a regardé le match.
On a coupé parce que le commentaire était un petit peu. Et pendant ce temps-là, il y en a qui bossent au bureau. Bah, bravo. Dans quelques instants, Lyon. Au programme, supporters lyonnais, on vous attend. C'est maintenant que nous allons débattre ensemble. Les Bad Guns sont-ils en train de prendre en otage l'Olympique lyonnais? On va débattre, bien sûr. Vous allez entendre Rudy Garcia qui s'est exprimé aujourd'hui concernant Marcelo. Et puis tout à l'heure, Ludo nous parlait de Jean Fernandez en Ligue des Champions. Nous, on a des archives dans l'after.
Magnifique.
Et Jean Fernandez, il nous a quand même sorti un truc de dingo. Soir du tirage au sort. C'est là que là, on a compris qu'Auxerre allait perdre tous ses matchs. Écoutez.
Je vous l'avais dit. Vous l'avez dit, hein, je ne me suis pas trompé. Hein. Je le sentais. Hein. Oh, c'est dur. On va finir 3e.
Énorme.
Je vais pouvoir serrer la main à Mourinho, ça c'est quand même... Hein, ça c'est sympa. Hein. Je vais faire une photo avec lui.
Voilà, nous, on a entendu ça, on s'est dit, ah, ils sont pas bien au cerf, là.
Non, mais c'est
foutu.
Ne critiquez pas Jean-Fernandez.
Et alors, il y avait Yélène et Mignot, quand même.
Non, ne critiquez pas Jean-Fernandez.
Yélène et Mignot, t'as raison.
Irénouz, Yélène.
Yélène, il a fait une bonne saison. Hein.
Bien sûr. Il a été en Italie, il était très bon. Et comment s'appelait le meneur de jeu?
Il a joué avec toi en sélection,
Et le meneur de jeu d'Auxerre, là?
Pas longtemps, mais.
Ce meneur de jeu auxerrois qui est en Italie après, qui a été très bon. Milieu de terrain, relayeur.
Kallenberg?
Les auditeurs vont le retrouver.
Français?
Non, polonais.
Ah oui, Bjersa.
Bjersa.
Walter Bjersa.
Très très bon joueur. Il a fait une grosse carrière en Italie.
Il était attaquant, il était pas meilleur de jeu, Bjersa.
Il joue en 10, Gilbert.
Bon, ouais.
Ah, il jouait derrière l'attaquant.
Non, mais Jean Fernandez, honnêtement, quand t'as à peine 20 ans, en termes de professeur, c'est l'idéal.
Ah oui?
Ouais. Alors, je te dis pas, passer la trentaine, compliqué. De pouvoir travailler avec Jean. Mais quand t'as entre 20 et 25 ans.
C'est plus un formateur alors.
Ouais, c'est exceptionnel. J'ai eu lui et Claude Puel à la suite. Donc, si tu veux, j'étais à bonne école. Ils m'ont.
Sauf que t'avais plus de 30 ans.
Non, j'ai commencé avec Jean, j'avais 16 ans et demi. Il m'a lancé en pro, Jean, à 16 ans et demi. Jean Fernandez. À Metz, oui.
Ah, c'est Gilbert. Lui qui était à Metz à ce moment-là.
Ben oui.
C'est vrai que Jean Fernandez, il a fait 54 heures en même temps.
C'est pour ça que j'ai une affection particulière pour lui. Mais...
Ah, donc du coup, tu voulais le retrouver
non,
après
mais, ouais, voilà, c'est ça.
Mais, avec Auxerre.
Mais ils nous ont appris le métier, que ce soit lui ou Claude. Mais oui. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais
c'est quand même lui qui a eu l'idée
moi,
de faire l'attaque.
Ils m'ont inculqué ce que c'est être un grand professionnel. Voilà, aujourd'hui, c'est eux qui sont mes mentors et qui m'ont fourni les bases de ce que c'est de respecter son métier et comment aborder son métier.
Bon, en tout cas, il nous a pas montré la photo avec Mourinho. J'espère qu'il a pu la faire.
Qu'il l'a fait, ouais.
Voilà. Allez, je vous rappelle bien sûr que Lille a battu Montpellier 2-1. Les résultats Ligue 2, vous les retrouvez sur rmcsport.fr. Et nous, dans quelques instants, on débat de la situation à l'Olympique Lyonnais. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Ludovic Obraniak qui est là, Jonathan Macardy aussi, beaucoup de monde sur Direct Studio, notamment Hugo qui nous signale que Birsa était slovène, hein, et non pas polonais.
Slovène, excusez-moi.
Et il avait fait la Coupe du Monde 2010, notamment avec la Slovénie.
Tu sais qu'il joue encore j'ai regardé. À Cagliari, oui. Il a fait 15 matchs cette saison quand même.
Pas mal, belle carrière.
Il a 33 ans et c'est un beau joueur.
Très beau pied gauche.
Et puis Skuletić, le pauvre Skuletić qui n'arrive pas à en mettre un. Hussein nous rappelle que Skuletić, avant d'arriver à Montpellier, était remplaçant dans une équipe reléguée en D2 turque.
Est-ce que c'est Skuletić
Gilbert, le vrai regret que j'ai pour Montpellier et pour un joueur et pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y avait un transfert qui était évident à faire. C'était que Marseille donne à Montpellier Valère Germain un petit peu d'argent pour récupérer Andy Delors. Andy Delors.
Andy Delors, il voulait rester à Montpellier, là, c'est chez lui. Il voulait en plus jouer avec Savagnier.
On l'a eu plein de fois, Andy Delors, au téléphone. Non, et plein de fois, il nous a dit que Marseille, ça le tentait. Et Germain, là, à Montpellier, il aurait été comme un poisson dans l'eau. Si, avec deux attaquants, ça aurait été nickel.
Non, si tu prends Benedetto, tu peux pas prendre Delors.
Tu prends les deux.
Non, ça marche pas. Par contre,
alors, Lyon.
Non, si l'OM veut prendre Giroud, Mercato d'hiver.
Benedetto, pour toi, ça passe.
Ah bah oui.
Giroud, Benedetto, c'est une bénédiction.
Benedetto, Wanchope, Boca Junior, ça marche très bien.
Et s'ils veulent faire bon l'effort, choper, c'est là qu'il faut faire l'effort.
Mais qui tu mets titulaire alors?
Les deux. Giroud, Benedetto, à deux devant,
Gilbert.
Mais bien sûr.
Ah oui,
mais bien sûr.
Benedetto n'a jamais marqué autant de buts que quand il était associé à Wanchope, à Boca Junior.
Mais bien
à
sûr.
Deux, il est très bon.
Donc. On a fait un début de débat hier dans l'after là-dessus et tout le monde s'était accordé à dire que c'était pas possible Giroud et Benedetto ensemble.
Mais très bien. Qui a dit ça?
Vous rigolez.
Il y avait Kevin Diaz, Julien Charbonnier,
que
des pointures.
Ok, est-ce que Kevin, Daniel et Lionel ont déjà vu Benedetto jouer à Boca? Je ne pense pas. Moi, je te dis que les meilleurs matchs de Benedetto, c'était avec Wanchope.
Benedetto, c'est un joueur
qui fait tout le temps le pauvre.
Mais non, il a fait une grosse saison, il était champion, il a mis 20 buts, arrête.
C'est un mec qui peut jouer 9, mais qui peut jouer 9,5 sans problème.
Et au Mexique, il jouait sur le côté
un peu
même.
Autour de Giroud, quoi.
Mais bien sûr. Et Giroud, c'est le mec qui, c'est le pivot parfait. Regarde comment il met en valeur Griezmann et d'autres en équipe de France.
Je vais ajouter une dernière chose. C'est que les supporters de Boca, quand Benedetto jouait avec Wanchope, ils disaient, ah putain, c'est presque aussi bien que Palermo Palacio.
Ouais.
Palermo Palacio, c'est quand même un des binômes magiques à Boca Juniors.
Sans problème, Giroud, voilà. Lyon, c'est complémentaire.
Lyon, on y va. Alors, tout le monde connaît l'histoire, bien sûr. Ça date de mardi soir après le match. Altercation entre les supporters et les joueurs. Depuis, ça fait beaucoup de bruit. Marcelo, la femme de Marcelo, Jean-Michel Aulas et Rudy Garcia, qui aujourd'hui est entré dans la danse pour défendre Marcelo, joueur qui, vraisemblablement, on l'expliquait hier soir, fait pas non plus l'unanimité dans le vestiaire. Hein. Il vit un peu dans son coin avec les autres Brésiliens. Il n'est pas vraiment soutenu par tout le monde. Bref, la situation est vraiment compliquée autour de lui. On écoute Garcia et après on élargit le débat, notamment avec Johan et Maxime au 32-16.
C'est inconcevable, ouais. Bien évidemment que c'est inconcevable. Et il souffre, bien évidemment qu'il souffre.
Marcelo,
qu'il souffre pas quand vous avez votre épouse au stade, vos enfants et que vous êtes traité de cette manière-là. C'est dur, c'est terrible, ça devrait même pas exister. Reprenez les déclarations de Memphis, de Paille, qui a été assez exceptionnel après le match pour dire combien elle était fière de la qualif, mais combien elle était triste aussi de voir qu'elle a été un peu gâchée, bien évidemment, par ce qui s'est passé. C'est vraiment dommageable. On a besoin que tout le monde tire dans le même sens si on veut les meilleurs résultats possibles.
Bon, Garcia défend son joueur, on peut le comprendre. Maintenant, les enfants de Marcelo, ils ont aussi vu leur père montrer leur majeur à la tribune.
Ce qui est important, c'est d'avoir aujourd'hui des membres des Bad Coons et de savoir la genèse de tout ça.
Mais la genèse, on la connaît. C'est parti de Lisbonne, d'une altercation entre Marcelo et les supporters après le match.
Est-ce que ça justifie ce qui se passe maintenant?
Plus large que j'aimerais qu'on pose, c'est aujourd'hui, est-ce que l'OL est pris en otage par un groupe de supporters qui a eu indirectement la peau de Genesio. D'ailleurs, Ola, vous avez aussi une déclaration hier, il dit j'aurais pas dû céder parce que, en gros, il a aussi subi la pression de tout le monde, notamment des Badgones sur Genesio.
Rappel.
Aujourd'hui, si Marcelo s'en va, ça veut dire que les Badgones ont gagné. Si derrière Depay s'en va, ça veut dire aussi que les Badgones ont gagné. Donc, ça pose quand même une question. Alors, il y a des clubs en Italie, en Amérique du Sud, tu connais ça, Jonathan, très bien, où les supporters lèvent le doigt en disant lui, il dégage, et les dirigeants font. On n'en est pas là encore à Lyon, évidemment. Mais enfin, excusez-moi, moi je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans
le problème de cette situation-là, c'est que Jean-Michel Aulas, en fait, a donné trop d'importance aux Badgones. Je pense que les Badgones, c'est un groupe de supporters qui met de l'ambiance, qui est remarquable.
C'est un groupe aussi important à Lyon. C'est important d'écouter les tribunes par ailleurs, mais il faut trouver le juste équilibre.
Je pense qu'Aulas leur a donné trop d'importance à chaque fois par démagogie. Je repense à l'épisode de Saint-Étienne jouera à la Ligue des Champions à la PlayStation. Je repense à certaines fois où il n'a pas su trancher dans le vif. Il n'est pas monté au créneau.
Pour rajouter le coup, il allait craquer le fumier pour l'anniversaire.
J'allais en parler, exactement. Où il n'est pas monté au créneau pour soutenir suffisamment Bruno Genesio lors de sa nomination. Et je pense qu'en fait, il y a une situation qui s'est pourrie dans les tribunes de Lyon, avec un groupe de supporters qui est certes est remarquable, les Badgones, et un président qui n'a jamais su asseoir son autorité par rapport à ce groupe de supporters.
Et pourtant, il en a l'autorité.
Mais il est démagogue. Il est démago. Avec les Badgones, je suis désolé, il est démago. Il leur laisse faire tout et n'importe quoi, ceux qui décident de la pluie et du beau temps à Lyon.
Je ne pense pas, Jonathan.
Ah, arrête, Gilbert.
Non, je pense pas.
On vient donner les exemples. Non,
mais il y a quelques exemples qui vont dans ce sens, mais moi je te dis qu'il ne laisse pas tout passer et que les relations sont.
Alors dis-moi ce qu'il n'a pas fait passer face aux Badgones.
Bah tiens, on a Johan avec nous, qui est au 32-16 là, en direct. Johan, bonsoir.
Bonsoir, l'after.
Salut Johan. Johan, tu fais partie donc de ce groupe d'ultra lyonnais, les Badgones.
C'est ça.
Merci d'avoir appelé déjà.
De quoi ?
Merci d'avoir appelé déjà.
Ouais. Juste, c'était pour dire que je parle qu'en mon nom, hein, juste en mon nom.
Pas de problème.
Je suis porte-parole de personne.
Mmh. Pas de problème, Johan, on est déjà ravis de t'avoir. Est-ce que tu étais au stade mardi ?
Ouais, j'étais au stade. Ouais.
Bon, qu'est-ce que t'as pensé déjà de ce qui s'est passé ?
Alors moi, j'ai un petit coup de gueule, en fait. Parce que depuis mardi soir, j'entends les supporters, c'est des abrutis. Alors moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis quelques saisons, on avale des couleuvres, on les avale. Et depuis cette saison-là, c'est pire que tout. On voit des matchs de merde, des joueurs qui ont ni le talent, ni la mentalité. Et nous, on va au stade, on chante, on les pousse. On voit des matchs de merde, mais on chante.
C'est quoi les couleuvres que t'avales, Johan ? Depuis des années.
Eh ben, c'est détail par exemple pour le grand entraîneur. Et on finit par avoir Pep Genesio. C'est des petites choses comme ça. Et nous, on va au stade, on chante, on se casse le cul. Et ce mardi soir, on voit une première mi-temps exécrable. Nul, zéro. Et on les lâche pas, on les pousse, on chante. Et à la fin du match, ils veulent pas venir nous saluer. Ils veulent pas venir. Parce qu'il y a eu un petit incident avec Marcelo. Mais le petit Marcelo, là, il s'est passé pour une victime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il croise des supporters à Lisbonne et qu'il le critique sur sa performance, qu'est-ce qu'il propose, lui ? Un match de boxe. Voilà ce qu'il propose.
Oui, c'est de là qu'est partie l'histoire entre Marcelo et le groupe de supporters. Hein.
Et nous, on voit des matchs de merde depuis le début de saison. On vient au stade. Moi, mercredi matin, je me levais à 6h. J'ai dormi 4h.
Johan, moi, je sens ta colère. Enfin, tu comprends aussi qu'un club de foot professionnel aujourd'hui ne peut pas être dépendant des coups de gueule des supporters.
Mais dépendant de quoi ?
Ben, c'est-à-dire que c'est pas vous qui pouvez dire, ben, tiens, tel joueur, ben, il se barre parce que nous, on en veut plus.
Le problème, Johan, je vais compléter.
J'aimerais que Johan réponde à ça d'abord.
Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a des joueurs qui sont mauvais ?
T'as le droit.
Oui, mais...
T'as le droit.
Non, mais... Johan, il n'y a pas de problème avec ce que tu dis.
C'est la liberté d'expression. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie du... Moi, là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin, un club de foot ne peut pas être dirigé par les ultras. C'est pas possible.
Il n'y a aucun problème avec ce que tu dis. Moi, je ne me le cache pas. Je suis supporter d'un club et je ne me cache pas de dire...
Vous demandez le départ de Marcelo.
Qu'un entraîneur est mauvais, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve, d'un point de vue totalement extérieur, et tu me diras si je me trompe, mais je pense que du côté du point de vue des Badgones, il y a souvent eu un espèce de délit de sale gueule envers certaines personnes. Je pense à l'arrivée de Genesio, qui a été calomnié. On va se rappeler quand Jean-Michel Aulas le nomme, il y a une pétition qui circule pour l'empêcher d'entraîner alors qu'il n'avait jamais dirigé un match de l'équipe première. Je pense à Marcelo. Quand Marcelo signe, tout le monde, on va dire que la majorité des gens, des observateurs du monde du foot disaient c'est peut-être une bonne recrue pour l'Olympique Lyonnais, mais il y a eu un a priori très négatif de la part des Bad Guns. Et je pense que vous faites quand même un petit peu des procès de mauvaise, des procès de délit de sale.
Mais sur Marcelo, c'est l'histoire de Lisbonne. Sinon, il y aurait pas, de problème. Enfin, je pense que Johan confirmera. S'il y a pas les épisode de Lisbonne concernant Marcelo, il n'y a pas de problème avec Marcelo, Johan.
Oui, bien sûr, oui. Non, mais le truc, c'est que nous, c'est qu'on avale des pilules depuis quelques saisons déjà. Et on voit des matchs nuls, avec des joueurs nuls.
Johan, t'as tort. Gilbert, les pilules, tu les avales pas depuis quelques saisons. Les pilules, tu les avales depuis... Allez, on va dire un an et demi. Parce que les pilules que t'as avalées les années précédentes, c'était normal de les avaler. Parce que c'était dans un processus de construction de club avec le fait d'acquérir le nouveau stade, les actions en bourse, et c'était normal de stagner un peu.
Johan et peut-être une certaine partie des Bad Gones, en gros, ne sont pas en phase avec la stratégie actuelle de l'OL. En fait, c'est ça l'histoire. C'est la stratégie actuelle de l'OL, c'est les jeunes, voilà. La stratégie où on prenait des stars il y a quelques années, eh ben, elle n'existe plus. Et donc, on est déçu de ça. C'est ce que dit Johan. Ludo. On arrive, Johan. Ludo d'abord.
Honnêtement, moi, je me place du côté des supporters. C'est-à-dire que ça soit pour les ultramarines à Bordeaux, que ça soit pour les Bad Guns à Lyon. Voilà.
Mais c'est pas du tout le même cas.
Non, c'est pas le même cas. Mais si tu veux, à un moment donné, c'est ces gens-là qui font que aujourd'hui, le football existe. C'est-à-dire que ces gens-là viennent, supportent, font tout ce qu'il faut pour que, voilà. Il peut y avoir des dérives et je vais pas aller à l'encontre de ça. C'est-à-dire que le mec, j'espère que d'ailleurs Johan ne va pas comment dire
franchir les limites.
Mais non, mais ne pas supporter ce mec qui est sorti du terrain brandir un drapeau.
Ça tu le condamnes. Non, mais évidemment, t'es du côté des supporters, mais tu condamnes le gars qui va sur le terrain avec sa banderole.
Pour moi, les supporters sont rois. C'est-à-dire que tu viens au stade, t'as payé ton truc, t'es machin, t'as le droit d'à un moment donné d'émettre une critique, t'as le droit de siffler, t'as le droit de contester.
Nous sommes d'accord sur ce
point. Parce que t'as payé ton ticket et qu'à un moment donné, si le spectacle est pas à la hauteur de, alors. On peut avoir différentes visions de ce qu'est le supporter. Le supporter qui dit, qui avale toutes les couleuvres.
Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que d'habitude, les anciens pros sont plus sur une ligne à dire.
Je comprends totalement. Tu peux avoir le supporter qui avale les couleuvres et qui dit, mon club, c'est mon club. Quoi qu'il en soit, si ça se passe mal, je le supporterai jusqu'au bout. Je respecte ces gens-là. Principalement. Mais je peux aussi respecter les gens qui, à un moment donné, payent leur place et disent voilà, le spectacle, il n'est pas à la hauteur de ce que nous, on estime, on est là tout le temps, on supporte le club tout le temps, on fait les déplacements
tout le temps.
Non, mais et sur Marcelo, je peux suivre Johan sur le fait qu'on peut critiquer Marcelo, on peut contester le fait que c'est un joueur qui n'est pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre de lui. Et par contre, je vais à l'encontre de ce mec qui arbore un drapeau avec un âne dessus. Ça, par contre, ça me débecte. Vraiment, clairement. Il y a assez de les supporters.
Non, mais il n'y a rien de méchant.
Tu sais ce que c'est être comparé à un âne, quand même, s'il te plaît. Le mec, il n'est pas chez lui.
On est à Lyon, c'est les Guignols, voilà.
Bah, voilà. Mais moi, je vous soutiens.
Non, mais il n'y a rien de méchant. Mais Marcelo dégage. Il n'y a aucune insulte.
Ouais, mais tu sais quoi? Attends, Johan, je ne peux pas tolérer ça. Par rapport à ce que j'ai dit sur les Bad Guns, je le tiens. Par contre, sur la banderole avec l'âne, j'ai même limite trouvé ça un peu marrant parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe dans certains pays. Quand Figo retourne au FC Barcelone, qui se prend une tête de porc, c'est pire.
Le problème, c'est le fait que le mec vienne sur le terrain. C'est envahissant de terrain. La banderole, elle reste dans la tribune. Voilà. C'est pas du tout la même histoire.
C'est un problème de sécurité pure.
Tu sais quand même que par rapport à ça, l'OL est un club qui veut grandir. On est d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un capitaine qui s'est positionné, qui était. Et je pense pas que c'était du cinéma. Un mec qui était les larmes aux yeux, qui est le meilleur joueur de votre équipe aujourd'hui. On peut se le dire.
C'est le meilleur, de loin.
On peut se le dire quand même. C'est-à-dire que ce joueur-là, il faut le garder, il faut construire autour de lui, si tu veux.
Et ben justement, moi, dernière si question à Johan.
Si c'est ce que Ludo. Vous attendez.
Non, mais attendez.
Attention non. Parce que vous risquez de le perdre de paille avec tout ça.
Mais c'est ça.
C'est ça.
C'est pas grave.
Et les autres. Et les autres. Et les autres qui voudront venir. Et les autres qui voudront venir à l'avenir.
Non.
Alors, Johan, vas-y, je reviens pas pour toi là-dessus.
Non, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que nous. Si on n'est pas là pour mettre l'ambiance, le stade est mort, d'accord ?
Mais Johan, je viens de te le dire. Je viens de te dire que j'allais dans votre sens. J'affluais dans votre
oui,
sens
d'accord.
En disant non, que après... si vous n'êtes pas là, il n'y a rien.
Alors, laisse finir, Johan.
Mais
il y a des joueurs qui refusent
d'accord.
Après une qualification de venir nous saluer alors qu'on les a pas lâchés et que depuis le début de saison on voit
des matchs
de merde.
Je suis raison, totalement d'accord avec
on
toi. Et on
ne
parle pas de ça. Moi, je ne conteste pas ça. Moi, les joueurs... Que ça soit bon ou que ça soit pas bon, quand les supporters sont là et qui manifestent leur encouragement, ok. Mais tu peux aussi comprendre que l'équipe, une équipe, c'est un groupe. Alors on reproche souvent aux clubs de foot ou aux joueurs, notamment, de pas être assez solidaire, de pas former une unité. Là, même Fils de Paille, il te dit quoi ? Il te dit, moi, si je suis sur le terrain pour jouer un tel match, c'est difficile pour moi de me battre, sachant que mes supporters sont en conflit avec
ceux qui refusent de venir nous voir, ceux qui refusent.
Johan, s'il vous plaît, le temps passe. Johan, est-ce que tu sais s'il y a des choses spéciales de prévues pour le match contre Rennes dimanche ?
Bah non, je sais pas.
Johan,
je pense qu'il y aura 2-3 banderoles, oui.
Johan, il n'y a pas moyen de trouver un arrangement, sans déconner. Il n'y a pas moyen de trouver, à un moment donné, une discussion. Mais pourquoi il n'y a pas moyen ?
Non, mais parce qu'il y a des gars. Mais qui sont là depuis
quel
10 ans.
Mais quel gars ?
Attends, laisse parler.
Quel gars, Johan ?
Mais parce qu'il y a des supporters, mais qui sont là depuis 10 ans, 20 ans,
okay.
Qui font tous les déplacements.
Ok,
et qui
je
sont
comprends
là pendant
ça.
Encore 10, 20, 30 ans. Et eux, ces joueurs-là, qui n'ont aucune mentalité, qui sont nuls, ils sont que de passage pour prendre leur chèque. C'est okay. Ça l'histoire.
Okay.
C'est ça l'histoire.
Mais ça, je peux comprendre ça. Ok, d'accord. Je comprends très bien ça.
Il faut qu'on fasse
ça. Mais toi, qu'est-ce que t'attends ? C'est quoi ton.
C'est qui part cet hiver ?
Des ambitions de l'OL et que quand nous on les pousse.
Non mais tu racontes n'importe
non,
quoi.
Non,
Johan,
s'il te plaît, laisse parler Johan. On conclut avec Johan.
Vas-y Johan, vas-y.
N'importe quoi.
Pourquoi ? Bah dis-moi.
Je pense que parce que de la. Non mais. Ok, non, on va en pub.
Exactement. Enfin,
je réponds après alors.
Alors, non, parce qu'il faut qu'on arrête avec Johan, parce qu'on reçoit beaucoup d'appels. Moi j'ai envie de donner la parole à tout le monde. Il y a Maxime par exemple qui attend.
Juste.
Alors, le mot de la fin pour toi, Johan, vas-y.
Ouais, c'était juste un petit aparté. Il y a quelques mois, tu faisais un jeu, Gilbert, où on pouvait prendre n'importe quel joueur dans notre équipe.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens.
On jouait dans ton club, c'était
ouais.
Ouais,
petit, ouais. Et on pouvait dire Pelé, Maradona et Cruyff. Il y a un supporter de l'OL qui est passé et qui a dit Traoré. J'ai failli avoir une crise cardiaque.
Oui, non mais là, je me rappelle, t'as raison.
Bon, moi je m'en souvenais pas de celle-là.
Alors,
bon, Johan, en tout cas, merci de ton témoignage.
On conclut, on est tous d'accord. Sur
très bientôt dans l'after. Salut Johan.
Ciao.
Salut Johan.
Salut Johan. Dans quelques instants, Maxime, il veut réagir lui aussi. Beaucoup d'appels au 32-16 sur ce sujet. On continue le débat lyonnais, donc, dans quelques instants dans l'after.
RMC.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan Macardy, on va conclure le dossier lyonnais tout de suite avec Maxime. Dans l'after, il est là au 32-16 avec nous. Salut Maxime.
Bonsoir monsieur.
Salut Maxime.
Ah, Maxime, toi tu fais pas partie des Bad Gones ?
Ah non, du tout, mais supporters de l'OL. En fait.
Tu fais partie d'un groupe quand même de supporters ?
Non, du tout, non. À chaque fois que je remonte, je vais au stade voir Lyon, mais je suis pas membre d'un groupe de supporters.
Bon alors toi tu penses quoi de ce qui s'est passé ? On a eu le point de vue de Johan qui est Bad Gones, quel est ton avis à toi ?
Honnêtement, je trouve ça triste.
Ouais.
Triste par rapport à l'image que les supporters dégagent, parce que je pense que c'est pas l'image même d'un supporter de foot. Donc triste par rapport à plein de choses, par rapport aux joueurs. Malgré la qualification, on a donné vraiment une mauvaise image de Lyon, je trouve, pour ma part, c'est mon avis. Et je pense que c'est la conclusion de pas mal d'années où ça part un peu en cacahuète. Où le président, je pense, a pas su faire des bons choix, que ce soit les années d'avant et même cette année.
Donc t'es d'accord avec Johan sur la stratégie ? Alors il le disait avec des mots un peu différents, mais sur la stratégie, te convient pas non plus, la stratégie globale du club depuis quelques années ?
Ben c'est pas qu'elle me convient pas, c'est qu'en fait, il fait des choix qui sont tout l'inverse de ce qu'il dit dans la presse. Donc là, comme on va reprendre toujours le même cas, mais c'est le cas le plus récent, on change, il licencie Silvinho, mais on a tous les supporters attendent un grand entraîneur. On attend tous Laurent Blanc, on va pas se mentir, tout le monde le sait.
On se retrouve avec Rudy Garcia alors qu'il nous a balancé des pics pendant toutes ces années qu'il était à l'OM.
Je peux te le dire, mon pote, je peux te le confirmer.
Après, c'est bonne guerre, mais... Donc, mais
Maxime,
voilà,
j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu attends de la fin de saison de l'Olympique Lyonnais et qu'est-ce que tu attends surtout de la prochaine intersaison ? Changement d'entraîneur, changement de direction sportive. Dans l'idéal, toi, tu veux quoi ?
Mais qui changement d'entraîneur ? Tu viens de le signer, Rudy Garcia.
J'ai dit prochaine intersaison d'été.
Ah oui.
Alors, la réponse de Maxime.
Alors moi, je pense que la prochaine intersaison, après, c'est que mon avis.
Été, hein.
Voilà. Je pense qu'il faut vraiment tout changer le staff. Honnêtement, je pense qu'il y a pas que c'est pas Rudy Garcia, je pense le
problème. Mais Juninho, t'en fais quoi ?
C'est ça, ouais.
Eh ben ouais, mais c'est ça qui me choque aussi, c'est qu'on l'a pas entendu depuis mardi soir. Il est directeur sportif, il a pris la parole à aucun moment. Enfin, je trouve ça bizarre. Non,
mais il est mort dans le film, Juninho. Et il a fait un choix, il s'est trompé. Depuis qu'il a fait ce choix-là, il est mort. Et Jean-Michel Aulas a repris la main. Lui, c'est le pantin qu'on va envoyer quand.
Envoyer au feu pour les supporters.
Voilà. Mais Juni, moi, je l'adore ce mec. Et j'adore le joueur, j'adore le mec qu'il est. Aujourd'hui, il a plus la main.
À partir du moment où Silvinho est parti, il sert plus à rien.
Mais s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît.
Allez, pour conclure, Ludo.
Non, s'il vous plaît. Trouver à un moment donné Lyon est dans une vraie difficulté, honnêtement. C'est-à-dire que c'est un miracle quand tu vois le match, c'est un miracle que tu te qualifies en 8e de finale.
C'est aussi grâce aux
Et à un moment donné, quand t'as des miracles qui se produisent, faut rendre grâce. À un moment donné, faut rendre grâce. Et je crois qu'il y a des joueurs qui méritent.
Amen, Ludovic Obraniak.
Mais non,
il faut qu'on conclue.
Les joueurs, ils sont critiquables. Ils sont tout ce qu'on veut. Marcelo, très bien. Ok, il y a un conflit avec lui. Mais les gars, vous êtes au-dessus de ça quand même. Vous supportez l'Olympique Lyonnais. Vous n'allez pas aller pour Marcelo, un joueur qui est de passage, qui a été vraiment. Allez, pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre.
Voilà,
en même temps,
le message de paix du pape polonais. Mais ça va être messieurs dames. Plutôt, c'est fini.
Ça va pas être grand joueur. Les gars, consensus, on se calme. Voilà, 8e de finale, les gars. Et tout le monde derrière votre club.
Emeric est
avec nous.
Salut, Emeric.
Salut, Gilbert.
Salut, Emeric.
Emeric, t'as été tiré au sort.
Bah ouais, j'ai été tiré au sort.
Et j'ai la petite enveloppe là, avec ton cadeau à l'intérieur.
Oh putain, ça sent la.
Attention,
ça sent la Xbox.
Voilà, là, on est déjà à la bourre.
Xbox 4.
Eh ben non, tu gagnes, mon petit Emeric, pour Noël, une PS4.
Bravo.
Super.
Mais il avait dit dans les grandes gueules Xbox 4.
PS4. Je monte le truc, c'est comme ça.
PS4.
Voilà.
Ah, ouais,
bravo, Emeric.
C'est pas une PS1 ni une PS2, c'est une PS4.
Joyeux Noël, mon pote.
Bravo, Emeric, joyeux Noël.
Super.
Emeric, il y a la PS5 qui sort dans pas longtemps. Putain, tu t'es fait arnaquer.
Le grand jeu de Noël revient lundi matin, bien sûr, et lundi soir dans l'after. Ludo, Jonathan, merci, les gars. Vous serez là demain soir. C'est fini.
RMC Fighter Club maintenant, avec Sefiu. Un gros preview de l'UFC 245 qui sera en direct sur RMC Sport 4. Et ne loupez pas ça, on s'est régalé.
Ça, t'avais le droit de
et
le dire.
Cyril Benzakem, qui est à nouveau, qui était dans le Moscato Show cette semaine, qui est de nouveau champion du monde.
Bravo à lui.
Voilà, félicitations à lui.
Bonne nuit à tous et à demain soir dans l'after. L'after demain soir à 22h avec Jonathan et Ludo.
RMC.
L'after foot.
Hey, smartphones. Duracell Bunny here. This season, you guys are going to be on the road for an eternity trying to find in-laws in town so small, they sound made up. Luckily, this Duracell power bank will give you up to 3 full charges to keep you powering on through playlist after playlist after playlist of mind-numbing holiday anthems. And who doesn't love that? Pick up a Duracell power bank and power on. Number of charges on the iPhone 8 and Duracell power bank 10,050 mAh. Results will vary by device and conditions.